Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir dans nos studios un personnage important du stand-up marseillais, Quentin Friburger.
Eh ben merci Yacine, c'est cool. Merci pour l'invitation.
Ben avec grand plaisir. Quentin Friburger, pour le présenter quand même aux auditeurs et auditrices, il a fondé le Garage Comédie, donc un lieu très important du stand-up à Marseille. Mais c'est également un stand-upper, un humoriste qui joue son premier spectacle, La Cage, qui a fait son Montreux Comédie, donc le Graal des stand-upers, et qui commence à tourner sur toutes les scènes de France et de Navarre, puisqu'il part même à l'étranger. Bienvenue à toi, Quentin.
Eh ben merci beaucoup.
Ben c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille ici à l'occasion justement de... Alors, c'est pas la première de ce spectacle, mais c'est une énième représentation de ce premier spectacle, La Cage.
Ouais.
Déjà, je vais commencer par la question et maintenant traditionnelle, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter ta première scène? Comment toi, tu as commencé la scène et le stand-up?
Alors, c'était il y a un peu plus de 6 ans, c'était en 2018. J'habitais en Colombie à l'époque et j'ai eu une révélation, je regardais une vidéo de stand-up. Et là, en fait, à ce stade, moi, je pensais que le stand-up, c'était, voilà, moi, les seuls trucs que je connaissais, c'était Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, c'était, voilà, il n'y avait pas vraiment de stand-up moderne, à proprement parler, dans ce que je connaissais. Et là, je regarde cette vidéo d'un gars, donc c'était mon coloc qui m'avait envoyé des vidéos d'un peu de stand-up moderne, les Faris et tout, à l'époque, qui commençaient un peu à pop-up. Et j'imagine le stand-upper, en fait là je réfléchis, j'imagine le stand-upper un peu sortir de l'écran et je me dis mais comment c'est, en fait si je l'imagine en train de me faire son sketch mais à moi tout seul, comme si là je te parle tu vois là en face à face et je me dis, et là je commence à me dire mais ça ferait bizarre en fait s'il jouait de cette manière, s'il me parlait de cette manière ça ferait bizarre, et là je commence à réfléchir mais comment ça se fait que... Et ça serait même pas drôle en fait s'il me faisait ça. Et là, je me pose la question pourquoi. Et je connecte avec un livre de psychologie comportementale que j'avais lu quand j'étais au lycée. Parce qu'à l'époque, je me tuais au poker, je voulais apprendre à décrypter le non-verbal, machin. Et dans ce livre, il dit le QI d'une salle est inverse proportionnel au nombre de personnes qu'il y a dans la salle. Ça veut dire que plus il y a de monde dans une salle, et plus les gens sont stupides, en gros, et plus on peut les mener où on veut. Et en fait, ce concept, il est utilisé dans tous les arts oratoires, dans la politique, par exemple. Tous les politiciens, même encore aujourd'hui, savent qu'il faut réunir la masse en physique pour pouvoir les diriger où ils veulent. Ça peut être exprimé par exemple, le silence communicatif. Tu vois un discours d'un dictateur, si personne parle autour de toi, tu es dans la foule. Tu vas te dire que ce qu'il dit, c'est vrai, si personne dit.
Ouais, ou important en tout cas.
Exactement. Et si tout le monde crie, tu vas crier. Et puis nous, dans le stand-up, c'est le rire communicatif. Donc si les gens autour de toi, ils rigolent, tu vas rire plus facilement. Ce qui fait que ça facilite en fait la blague. Et quand j'ai capté que c'était une discipline avant tout psychologique, moi, ça m'a régalé. J'ai déménagé de Colombie et je me suis dit, vas-y, je vais faire ça de ma vie. Donc, je suis arrivé en France et voilà, il n'y avait rien. J'ai pris 2-3 cours de stand-up. Et puis un mois après, j'étais sur scène.
Ok, et cette première scène, elle s'est passée comment, justement?
Cette première scène, c'était assez... quand on t'annonce comme une première scène, c'est assez cool. Donc, ça va, ça s'est relativement bien passé. Même si là, si je revois la scène aujourd'hui, c'était lamentable. Je crois que mon premier beat, c'était ma quatrième scène.
Mais là, ce n'était pas une souffrance, cette première scène, en tout cas. C'était
un plaisir, c'était cool.
Ok, c'est vrai que c'est toujours... Mais c'est intéressant de savoir que c'est parti donc, d'une analyse chez soi, enfin en Colombie, chez toi, pour arriver sur scène. Donc il y a vraiment eu un process avant la scène.
Complètement.
Et donc, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, donc, comme je le dis, tu as 6 ans de stand-up dans les pattes. Tu as fait beaucoup de belles scènes. Tu as ce lieu, le Garage, aujourd'hui, qui est un phare pour le stand-up dans le sud de la France. Et tu t'es lancé sur ce premier spectacle, La Cage. Déjà, pourquoi l'envie d'en faire un spectacle? Pourquoi l'envie d'aller sur un spectacle et sur un format long?
Alors, c'est... déjà, y a toujours un objectif à la fois un peu quantitatif et un objectif artistique. Quantitatif dans le sens où c'est un peu l'avènement de « Ok, on a travaillé, on peut rester une heure sur scène. » Voilà, là où dans les comedy clubs, on va jouer des 5 minutes, et puis ensuite des 10 minutes, des 20 minutes, des 30 minutes. Et puis voilà, après 30 minutes, le cap, c'est le spectacle, le 1 heure. Donc il y a ce truc de j'ai réussi mon examen, tu vois. Mais c'était avant tout un objectif artistique, parce que ce qui est fou, c'est que ce concept, en fait, les thèmes pour lesquels je me bat dans le spectacle, c'est quasiment, j'ai relu les premiers thèmes que j'ai écrits quand j'ai décidé que j'allais faire du stand-up. Mais en fait, j'ai commencé à écrire en Colombie. Quand j'ai su, là, quand j'ai regardé cette vidéo dont je te parlais, ben, le soir même, j'ai écrit 8 pages de stand-up.
Ok, donc l'idée, en fait, tout est arrivé d'un coup. Ouais.
Exactement. Et en fait, c'est des choses que je n'ai jamais jouées entre-temps. Je ne les ai jamais jouées parce que c'était nul, en fait. Après, il n'y avait pas de blagues. Enfin, c'était drôle que dans ma tête.
Il y avait les thèmes et les sujets, en tout cas.
Ouais, et les thèmes, par contre, je ne les ai jamais abandonnés, ce qui fait que finalement, peut-être que ouais, le subconscient, il choisit beaucoup pour nous, je pense.
Ouais, donc, il y avait déjà de base quelque chose que tu avais envie de retranscrire sur scène au tout départ, et cette envie primaire, tu as pu, avec l'expérience, la transposer sur un spectacle.
Ouais, exactement.
Okay. Et ben, c'est intéressant, justement, alors pour décrire, parce qu'on est à la radio et on ne voit pas ce qu'on raconte, mais ton affiche de spectacle, donc tu es derrière des barreaux, on devine plus ou moins que c'est des barreaux d'une cellule en tout cas, tu as un stylo en forme de seringue à la main et tu écris. Ce spectacle, déjà, on va partir sur le visuel. Qu'est-ce que tu voulais donner comme image quand tu as travaillé cette affiche? Parce qu'on sait que tu es un humoriste qui est dans l'art du détail, donc on sait qu'il n'y a pas de...
Alors, déjà, voilà, c'est vrai que c'est assez sombre. Je voulais donner déjà quelque chose... Alors déjà, je voulais faire appel à il y a quelque chose de dangereux dans l'affiche. Ça fait très cinématographique.
Agree.
Et je trouve que, et en fait il y a quelque chose, ça aussi, c'est un biais cognitif aussi, mais c'est attirant aussi, le truc de je veux que les gens ils se disent, ils soient en curiosité là-dessus, et c'est l'interdiction, c'est quelque chose qui attire, les barreaux, la seringue, il y a des trucs dérangeants. Pour eux, ça fait appel à des choses qui sont dérangeantes. La seringue, oui. Ça va faire appel aux drogues. Les barreaux, ça fait appel à la criminalité. Et après, voilà, il faut... Et en fait, la thématique du spectacle, c'est lié à la thématique du spectacle, clairement. Puisque la thématique du spectacle, je ne sais pas si on...
On peut en parler, bien sûr, hein, c'est une discussion.
mais c'est sur les addictions et les jugements. Et donc voilà, moi cette affiche elle est j'aime bien, elle est sobre, elle mêle deux univers, donc je suis en train d'écrire sur un bureau, donc un univers assez intellectuel et croisé avec cet univers du danger, en
ouais,
fait.
C'est ça, exactement, et qui renverse aussi les codes des affiches, on va dire, classiques du stand-up, où souvent c'est un humoriste assez souriant, ou en tout cas qui a l'air d'être dans une position joviale et qui vient parler au public. Là, on en fait un film, un thriller ou quelque chose où on sent qu'il y a une âme derrière différente, ou en tout cas qui interpelle. Et c'est vrai, donc du coup, La Cage, comme tu expliqueras le titre, mais c'est vrai que ce spectacle, il a un thème quand même, il a un fil rouge et tu viens de le dévoiler. Pourquoi tu avais envie de parler de ce thème, justement, du jugement, de la drogue, de tout cet univers-là, en tout cas?
Eh ben, en fait, je trouve qu'il y a de l'injustice un peu par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a du mépris aussi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup traîné dans des milieux à l'époque. Voilà, j'ai habité 5 pays, donc j'ai des amis qui sont de tous les milieux sociaux, social, quoi.
Ouais.
Et donc j'ai vu du bien, du mauvais là-dedans. J'ai vu et surtout, en fait, je dénonce en fait le fait que dans notre société on juge beaucoup les addicts, et alors qu'en fait on est tous addicts à quelque chose. Donc c'est pas un spectacle sur les drogues, je pars de ça pour que les gens comprennent. Donc je pars d'un postulat qui est que j'ai vu, justement, que moi je suis assez renseigné là-dessus, hein. Mais dans une... Le fil rouge est un peu issu d'une conférence que j'avais vue, donc d'un mec qui s'appelle Joan Hari, et qui, dans la prémisse de cette conférence, explique que l'héroïne ne rend pas addict. Donc ça, c'est assez fort d'envoyer ça sur scène, parce que tu sais que là, à ce moment-là, tu as perdu tout le public et que tu vas devoir justifier pendant tout le spectacle.
Pourquoi ?
Voilà, exactement. Mais en gros, lui, il explique que, en fait, voilà, si tu te casses la jambe en Angleterre, tu vas à l'hôpital et en fait, on te prescrit de la diamorphine, qui est en gros l'autre nom qu'on donne à l'héroïne. Et la question, c'est pourquoi, quand tu sors de l'hôpital, alors que tu es sous intraveineuse pendant 3 mois, tu ne deviens pas addict à l'héroïne ? Et ben, nous en France par exemple, ça va être la kétamine, la morphine, enfin toutes les drogues. En fait, on a tous déjà été sous drogue dure, mais on le sait pas. Et en gros, il explique ça. Donc, à travers des expériences scientifiques. Et donc ça, je sais pas si je vais spoiler le spectacle.
Moi, je te laisse, hein, c'est ton spectacle. C'est toi qui choisis ce que tu peux divulguer.
Mais en gros, l'idée, c'est que voilà, il parle d'une expérience où il y a des rats dans une cage. Mm-hmm. Si le rat, il est seul dans la cage, c'est en fait il y a un robinet d'eau et un robinet d'héroïne dans la cage. Si le rat est seul dans la cage, il va consommer l'héroïne. Si dans la cage, il y a plusieurs rats et il y a tout ce que le rat il kiffe, tu vois, des petits tunnels, du fromage. Là, il va consommer l'eau. Et en fait, aucune overdose va être constatée dans la deuxième expérience. Et en fait, cette expérience, elle montre que c'est pas la drogue même qui rend addict. Parce que moi aussi, je pensais que c'était que dans les drogues produit, dures, il y avait des hameçons qui te rendaient directement accro. Mais en fait, c'est le fait d'être isolé socialement.
Ah, c'est l'exclusion.
Exactement. C'est l'isolement social qui fait que tu vas consommer ou pas. Et c'est pour ça, quand tu sors de l'hôpital, même si tu as été sous héroïne pendant des mois, eh ben, tu retrouves ta famille, ton travail, etc. Et ça va. Et en gros, moi, je veux poser la question de, en gros, dans ce spectacle, de c'est quoi, moi, dans mon quotidien, mon addiction, ma toxicité. Parce que c'est de ça dont on parle, en fait. C'est ce que je dis, on ne devrait pas dire drogue ou pas drogue, c'est juste des choses de la vie. En fait, chaque chose, elle peut être toxique. Et cette toxicité, elle peut être meurtrière. Dans tous les cas, elle peut être meurtrière. Mmh. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un travail, ça peut être même... Tu vois, j'ai une amie qui est décédée l'année dernière. Elle, c'était la vitesse. Mmh. Elle sortait du travail et moto tous les soirs. Et en fait, c'était son moyen de décompresser. Et en fait, elle est décédée du coup d'un accident de moto. Et pour elle, c'était ça, sa toxicité. En fait, ça peut venir des choses dont on s'attend pas. Ouais. Et le problème, c'est que c'est doux. La toxicité, c'est tellement... En fait, ça met tellement de temps à arriver qu'on réalise pas le moment où le côté négatif prend le dessus sur le côté positif.
Ouais,
parce qu'il y a du positif et du négatif dans à peu près tout.
Ouais, dans tout. Même dans le sport, dans n'importe quelle
Exactement.
Activité.
Exactement. D'ailleurs, c'est ce que j'en fais une blague. Je dis, même les choses les plus extraordinaires, il y a du positif.
Ouais.
Par exemple, faire l'amour. C'est incroyable, faire l'amour. Mais il faut enlever ses chaussettes. Et donc, il y a du négatif dans tout, tu vois.
Ouais.
Et donc, donc, c'est de ça, en fait, dont j'aimerais qu'on se questionne. Parce que Et qu'on arrête du coup de juger des personnes aussi parce qu'elles sont dans une addiction. Parce que l'addiction n'est pas... C'est une maladie, l'addiction. Les gens ne le savent pas, tu vois. Mais on ne peut pas juger quelqu'un qui est malade, tu vois. On ne juge pas un handicapé, tu vois. Pas le... Et donc, je me bats aussi pour ça, tu vois. Pour faire comprendre qu'en fait, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Et que arrêtons, tu vois, de juger des personnes parce que toi ça t'arrive pas, mais en fait on est tout aussi tout aussi addict dans un autre côté. Bon, voilà.
Je vais appuyer ton propos parce que je pense que là il y a une addiction, on en avait parlé en off, mais il y a beaucoup de monde là qui en parle actuellement. Il y a une addiction que beaucoup de gens vivent, c'est celle aux réseaux sociaux, aux portables, et on est tous plus ou moins maintenant addicts à nos smartphones parce que c'est quand même je pense un produit addictif, et c'est vrai qu'on le ressent, enfin moi personnellement, quand on est entouré avec des amis, qu'on passe une bonne journée, ben, on a tendance à laisser plutôt le portable dans la poche et à pas trop regarder, et quand on est seul, ben, on va se diriger vers ce portable, et c'est la même chose pour toutes les addictions en fait. Donc on le vit au quotidien.
Et ouais, bah complètement. Typiquement, le portable, c'est un facteur de dépression, d'angoisse. Il y a des gens qui... Enfin, c'est un facteur d'isolement aussi, de déconnexion. D'ailleurs, j'en parle aussi dans mon spectacle, c'est qu'on est censé être la société la plus connectée jamais connue. Et du coup, je parle effectivement que l'isolement crée l'addiction, alors que là on est une société connectée. C'est bizarre, tu vois.
Ouais, c'est...
Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en gros on pense être connecté, mais on s'est déconnecté. On est et d'ailleurs Johan Hari, il en parle aussi. Il explique que avant le nombre de, en gros, d'Américains qui, en fait, le nombre d'amis qu'un Américain croyait pouvoir appeler en cas de problème, il était beaucoup plus haut que maintenant. Et en fait, maintenant, le nombre de mètres carrés qu'on a chez soi, il est beaucoup plus grand qu'avant. Ça veut dire qu'on est plus seul, on est seul, mais dans des espaces plus grands.
Ouais,
donc, la comparaison, c'est qu'on est devenu des rats seuls dans la cage, quoi.
Ouais.
Et donc, plus, alors qu'avant on était plus enfin on était beaucoup plus connectés, tu vois, ça dormait assis dans une chambre, etc.
mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est que toi tu parles de cette exclusion, mais tu as réussi à créer justement ce lien social au travers du lieu que tu as co-créé, le Garage Comédie. Aujourd'hui vous êtes une équipe dans ce Garage Comédie, que vous faites vivre ce lieu, vous êtes une équipe soudée puisque vous êtes plusieurs. En quoi ça contribue justement à ton travail, à ton spectacle et à ton art d'avoir ce lieu, et surtout d'avoir l'équipe qui entoure ce lieu et qui travaille de concert avec toi, ou en tout cas en
équipe. Écoute, c'est vrai que le garage à la base il a été créé parce que à mon retour de Colombie, quand il a fallu faire du stand-up, il n'y avait pas de scène. Donc en gros il a fallu faire en fait il fallait juste organiser ses propres scènes. Au début ça démarrait dans des bars et puis ça marchait bien. Donc au bout d'un moment, en plein Covid, on a décidé de s'envoyer dans cette dinguerie. J'avais 1500 balles sur le compte quand on a décidé de créer le lieu. Et puis en fait c'est juste un espace où maintenant on peut jouer tout le temps dès qu'on veut, tester dès qu'on veut.
Expérimenter, ouais.
Exactement, c'est à la fois un laboratoire, c'est un camp d'entraînement, c'est la salle du temps, quoi. Et ce qui fait que en fait ça facilite tout d'un point de vue artistique. Ouais. D'ailleurs, ce lieu a été créé que pour ça. À la base, on n'est pas des businessmen, tu vois. Ça a été créé pour qu'on puisse juste faire du stand-up.
Ouais, c'est la passion, c'était avant l'idée, en tout cas de financière. La passion est arrivée en première.
Ouais, complètement. Je pense d'ailleurs, ça c'est mon avis, que tous les projets devraient naître de cette manière. Quand je vois des entrepreneurs parler directement aux ailes, machin, c'est pas ça qui va te faire tenir pendant les 5 premières années où tu vas galérer. Hein. C'est pas en penser à être millionnaire. Ouais. Ce qui te fait tenir, c'est que t'es heureux dans ton processus, tu vois.
Que le chemin te plaît, en tout cas.
Eh ouais.
Bah ouais, mais ça paraît logique. Et aujourd'hui, justement, donc tu as ce lieu et tu as fait quand même des très belles réalisations, surtout qu'on est aujourd'hui dans un écosystème marseillais qui commence à prendre, entre guillemets, son envol, puisqu'on voit qu'il y a des têtes, en tout cas des figures de proue du stand-up marseillais qui commencent à sortir de la ville et se faire connaître. Tu fais partie justement de ceux qui ont eu la chance de faire le Montreux Comédie, de faire des grandes scènes à Paris. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves chez le public marseillais que tu n'arrives pas à trouver ailleurs ? Qu'est-ce qui différencie ces publics ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de différence du tout, justement ?
C'est marrant. J'aurais peut-être le point de vue, le seul qui aurait un point de vue diversifié, mais en gros, c'est vrai que généralement la réponse des humoristes là-dessus, c'est que le public marseillais va être plus chaud, plus chaleureux, plus machin, plus dissipé aussi. Ouais. Moi j'aime bien penser que les publics sont tous les mêmes, sont tous des humains, sont tous les mêmes entre guillemets humains, et qu'on peut c'est plutôt le conditionnement de en fait leur conditionnement qui va faire qu'ils vont être chauds ou pas. Et parce que j'ai vu des scènes à Marseille qui sont catastrophiques, et aussi bien qu'il y en a qui sont incroyables, et au même titre qu'à Paris, en fait. Souvent les gens ils vont dire à Paris les gens ils rigolent pas, et c'est toujours la faute des gens. Et moi j'aime pas je suis contre cette mentalité de ouais le public il est comme ci ou il est comme ça, parce que c'est notre métier en tant qu'humoriste, en fait, de le faire switcher. Donc tu peux pas dire ouais le public il est froid. Ben non, c'est ton métier.
Ouais.
C'est ton métier.
C'est toi qui le réchauffe.
Ouais, ben bien sûr, à aucun moment dans un autre métier ça va être la faute du
client.
Ben ouais. et donc pour moi c'est juste une question de voilà, ça passe par beaucoup de choses, le conditionnement, comment les gens comment ils rentrent dans le lieu, comment ils est-ce qu'ils se sentent bien avant même que le spectacle commence, la préchauffe, la chauffe aussi, et puis ensuite la prestation scénique, quoi. Comment les faire connecter, et je pense que c'est le plus important, c'est ce qui fait la différence. Et moi j'ai vu des artistes arriver dans des salles super froides. Moi c'était à l'image d'un Edgar Rive il y a 3 ans, on était au Joke, et voilà, il passe dans un line-up de 5 en dernier. Les 4 premiers qui étaient des bons artistes, je ne dirais pas les noms, mais il y en avait qui étaient assez connus. Ils font un passage moyen, et puis il arrive en dernier. Et en fait, là, il y a quelque chose qui se crée. Et là, le temps s'est arrêté. Il prend le micro, et là, d'un coup, tout le monde, en fait, a senti une énergie, une vague se diffuser dans la salle. Et les gens, en cri, en pleurs, machin. Et ça pouvait durer encore une heure, tu n'avais pas envie qu'il se taille, quoi. Et donc voilà, c'est, lui, c'est un professionnel, typiquement.
La maîtrise de la force.
Ouais.
Et toi, justement, tu sais bien que tu parles d'Edgar Rive, parce que j'arrivais à ça. Quel artiste, ou en tout cas, qu'est-ce qui te fait rire, toi? Parce que c'est vrai qu'on demande justement souvent aux humoristes qu'est-ce qu'ils ont, ils donnent au public pour les faire rire, mais toi, qu'est-ce qui te fait rire?
Alors moi, j'ai pas de style d'humour d'un point de vue thématique. Je sais qu'il y en a, ils vont dire, ouais, moi, j'aime bien l'humour engagé, ou j'aime bien le... Mais c'est vraiment, moi, c'est l'artiste qui est vraiment dans le présent. Mmh. Je préfère, moi, j'aime bien voir quelque chose. J'ai besoin qu'il y ait un moment qui se crée, justement. Mmh. C'est-à-dire que je pourrais, il peut y avoir des artistes ultra techniques, mais qui me proposent rien en termes de... Je sens qu'ils ne me parlent pas, je sens qu'ils sont dans quelque chose de trop travaillé ou
qui
trop...
Qui pourraient faire la même chose le lendemain devant un
exactement.
Autre public.
Exactement. Okay. Là, je vais pas rigoler, je vais voir les mécanismes, etc. Enfin, je veux dire, on a une école de stand-up et tout. Maintenant, c'est plus trop... et pourtant je vais peut-être voir un débutant à un moment, donc il va faire sa troisième scène et là il va y avoir une fragilité qui va me perdre aussi dans mon écoute, et d'un coup vram, je vais rigoler à gorge déployée sur un petit détail ou un truc que j'attendais pas, parce que il y a tellement d'imprévus aussi à ce moment-là que voilà quoi. Ouais, donc le rire, c'est la surprise, et je pense qu'il y a d'autres moyens aussi pour surprendre que travailler des blagues.
C'est vrai que tu parles de... Bah c'est une très bonne transition de parler de l'école, parce que vous avez monté un programme de formation pour les moldus, comme on dirait, qui ont envie de faire du stand-up et qui, en 2 ans, ont un cycle pour apprendre justement tous les mécanismes, parce que le stand-up, c'est pas que aller sur scène faire des blagues, c'est plein de mécanismes, c'est une énergie, c'est plein de procédés, et vous les formez à ça, vous leur donnez en tout cas toutes les clés pour se lancer et une scène aussi pour apprendre. Ce regard-là de professeur, de professeur, qu'est-ce que ça a changé de ton regard sur l'humour?
Alors déjà, mon regard sur l'humour, on va dire que ça m'a fait évoluer, dans le sens où quand t'enseignes aussi, tu dois te renseigner avant d'enseigner. Et c'est vrai que moi, c'est grâce à ça, je pense aussi, que ça m'a dirigé vers le stand-up US. Et ça, je pense, ça a été la grosse différence. Et ça, c'était encore récent. Ça a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans, tu vois. Mais où justement, je pensais que à l'époque, quand j'ai démarré le stand-up, je pensais vraiment, j'étais vraiment axé sur la blague. Et c'est justement en commençant à devenir expert de l'écriture de la blague et à me dire, OK, là, dans cette phrase, il y a zéro mot en trop, tout est parfait. Et malgré tout, continuer à bider. Que commençais à me poser d'autres questions, tu vois. Mmh. Quand t'enseignes des trucs et que en fait les trucs que t'enseignes, tu te rends compte que en fait ces méthodes, elles sont pas 100% efficaces. Enfin, en tout cas, elles sont pas 100% efficaces.
Il y
a des failles. Tu poses d'autres questions, et je sais que il y a un moment où voilà, j'ai compris que avant les blagues, c'était notre être qu'il fallait mettre au centre de la conversation, et c'est ce que je pensais avant. Je pensais que voilà, qu'il fallait faire rire pour connecter, mais en fait, il faut connecter pour faire rire, quoi.
Ouais, c'est que les gens soient avec. Bah, je lui fais un bisou s'il nous écoute, mais c'est Baba Rudy. Moi, je trouve qu'il y a cette capacité qui est exceptionnelle à arriver sans aucune blague, avec un sourire, un geste, et directement ouais. Se mettre en communion avec le public dans la seconde. Je l'ai vu faire un paquet de fois, et à chaque fois, ça reste de la magie pour moi de le voir. Mais c'est vrai que la connexion
est très forte.
Ouais, très fort, mais plein d'autres humoristes arrivent à le faire. Mais c'est vrai que cette idée de faire passer la personne avant les blagues, et donc au final l'âme avant la technique, c'est aussi quelque chose que tu as dû voir en fait chez les autres pour le comprendre chez toi, en fait.
Complètement. Okay. Complètement, et notamment voilà, le voir quand tu regardes des vidéos de stand-upers américains dans les années 80, tu te dis, mais comment c'est possible d'avoir cette... En fait, il y a 45 ans, 50 ans, ils avaient un niveau qui était déjà meilleur que le nôtre, et on a tout ce contenu, et en fait, on est toujours aussi moyen en stand-up. C'est là que j'ai vraiment réfléchi aussi, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qui fait qu'ils sont aussi bons? Et en fait, c'est qu'ils ont, ils abordent le stand-up pas du même angle. Nous, on l'a abordé à travers la comédie. Voilà, nous, d'ailleurs, les stand-upers, c'est des gens, même il y en a beaucoup qui sont issus du théâtre à l'époque, ouais. Etc. Eux, c'est vraiment comme le jazz, le rap, un art qui est issu de la tragédie. Et donc d'abord, c'est leur être, leur trip. Et ensuite, la blague, c'est autour, c'est la carrosserie.
Ok, ouais, c'est intéressant comme point de vue. Tu parles des stand-uppers américains. Je sais que le stand-up t'a mené sur de nombreux voyages. Hein. On sait que tu es parti au Canada parce que tu as eu la chance de faire les scènes montréalaises qui sont quand même aujourd'hui une référence sur la scène ouais. de stand-up francophone. Je sais que tu as fait d'autres voyages. Qu'est-ce qui te donne envie déjà de voir ces autres scènes à l'étranger? Et est-ce que tu aurais des projets justement d'aller un peu plus in situ
Alors, moi, ce qui me fait. Déjà, je trouve que. Moi, ça m'inspire rien que de savoir comment l'humour fonctionne dans tel pays. Mmh. Et tu sais, des fois, on va te dire que ouais, le public, pareil encore, le public montréalais, c'est différent. Le public, et j'aime voir le fait qu'en fait, non, on rigole tous de la même chose.
Ouais, de Côte d'Ivoire aussi, parce que c'est
vrai. Oui, c'est vrai, Côte d'Ivoire. Et du coup, j'ai joué en Côte d'Ivoire. Et bien sûr que tu vas pas leur parler du cours Julien. Mais c'est juste ça, à part les références, en fait, on rigole tous de la même chose. Et moi, je trouve ça trop beau. De me dire qu'on est tous des humains et qu'on se fait surprendre par les mêmes choses, tu vois. Et donc déjà ça me fascine de devoir m'adapter pour le coup, parce que tu dois t'adapter aux thématiques. C'est le seul truc qui a changé. Tu arrives à Montréal, bah, tu vas faire des blagues, tu vas commencer à les avoir avec des blagues sur la ville, etc. Et puis ensuite tu vas les prendre, tu vas juste faire tes sketchs et ça va fonctionner. Ta deuxième question, c'était est-ce que est-ce que j'ai des projets pour...
avec l'étranger, en tout cas.
Effectivement, ben là, en gros, voilà, ça fait 6 ans que je fais du stand-up et je me dis, ben en fait, c'est prévu que je parte vivre à New York, pour le coup, le temple du stand-up. Hein, c'est là que...
La mecque du stand-up.
La
mecque.
Ouais.
Là
où tout est né. Pour, ben justement, en toute modestie, hein, il n'y a pas de volonté de percer ou quoi que ce soit. C'est plus pour prendre du recul dans ma vie parce que, dans un premier temps, ben, là, j'ai l'impression, tu vois, on parlait de cage tout à l'heure, ben, que le projet... du garage, l'entreprise, le comedy club, eh ben, il devient un petit peu toxique pour moi. C'est-à-dire que j'ai un peu oublié aussi ma carrière artistique un peu à travers ça. Et j'ai envie de retrouver ça au maximum. Et donc, la deuxième raison, c'est que ben, je me dis, ça va, là, ça fait 6 ans que je joue. C'est l'équivalent d'un master. Et ben, j'ai pourquoi pas faire un stage de fin d'études à New York.
Alors ça, c'est tu l'avais partagé avec nous en off et je trouvais ça intéressant. C'était justement quand tu dis c'est la 6e année d'études, c'est que les stand-uppers, les humoristes, en vérité, ils étudient et ils découvrent comme un étudiant. Donc en vérité, quand on a 5 ans de stand-up, on est au niveau master bac plus 5 après le début de l'humour. Là, tu arrives à ta 6e année, donc ça y est, tu décides de partir faire ton premier emploi à New York. Et tu comptes faire quoi? Du stand-up là-bas? Vivre, travailler?
Je compte observer, voilà, ouais. Vendre des hot dogs sur la 5e avenue.
Ouais, ça donne envie en tout cas.
Vraiment, je peux un peu voilà, me sentir un peu. Petit, écrasé, et puis voilà, prendre du recul, je pense que c'est important. Des fois, t'es plongé dans un truc, la tête dans le guidon, et ça peut rester longtemps. Et comme je te disais, si ça devient toxique, ça peut rester très longtemps parce qu'il y a tellement de bien dans ma vie aujourd'hui que du coup, ça compense. Et là, je veux juste me débarrasser en faisant ça, de me débarrasser des côtés négatifs de mon quotidien actuel. Pour que quand je reviens, voilà, j'y retrouve que le positif, quoi.
Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas une belle aventure new-yorkaise. Aujourd'hui, donc on va revenir quand même sur ce spectacle à cage, mais c'est quoi toi ta manière de travailler? Comment tu procèdes pour, c'est quoi ta discipline pour arriver à faire un spectacle? Tu en as parlé un petit peu avec tes inspirations, les conférences, les lectures, mais est-ce que tu as une manière vraiment de travailler ou c'est plutôt à l'inspi et à l'instinct et tu bosses quand tu sens que tu dois bosser?
Non, bah déjà je suis, on va dire, victime d'aucune thématique, dans le sens où c'est vrai que je sais qu'il y a une partie de il y a certains artistes qui vont écrire des choses dans le métro et puis ils vont développer un axe, un angle sur telle ou telle blague, sur telle thématique. Moi je vais choisir d'abord la thématique, c'est-à-dire qu'il y a aucune thématique dont je parle qui est pas consciemment réfléchie. Donc ça veut dire que, et en fait pour le spectacle, c'est la même chose. La plupart, on va dire, des artistes travaillent, en fait, font un spectacle en additionnant plusieurs sketchs de 5-10 minutes, mm-hmm. et ensuite en essayant de trouver, on va dire, quelque
le
chose qui,
rouge,
les,
ouais.
voilà, qui les relie. Moi, c'est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que tous les sketchs que j'ai joués en comédie club en 5-10 minutes étaient déjà prévus pour le spectacle.
Ouais, donc, tu avais la vision globale avant.
Exactement. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, je sais qu'il me manque encore un set. à défendre pour le spectacle, et je dois le... C'est pour ça que je l'ai mis en pause là un petit peu, parce que j'attends de travailler ce set pour pour refaire une version qui est finalisée et encore plus solide que l'ancienne.
Mais c'est vrai que aujourd'hui, pour ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, en tout cas, on sait aussi que t'es curieux, puisque tu viens avec des sujets régulièrement sur les réseaux sociaux au travers de... Ben, juste d'anecdotes ou de savoir qui t'ont percuté ou t'as envie de venir blaguer, mais aussi d'apprendre aux gens les choses. Cette curiosité, est-ce qu'elle anime aussi ton spectacle ou en tout cas ton regard sur l'humour? T'as envie d'avoir une transmission ou en tout cas un passage de quelque chose?
Ben oui, bien sûr. Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une volonté de défendre un propos dans le spectacle, ça c'est sûr et certain. Il y a aussi, des choses que moi j'ai apprises et que bien sûr j'ai envie de retransmettre. Je suis pas le meilleur en culture générale, mais du coup je joue là-dessus, tu vois. Et puis ça n'empêche pas que les choses que moi j'ai vues, j'ai envie de les redonner aux gens. C'est tout simplement comme ça. C'est du transfert de messages. Je viens sur scène avec la volonté de partager quelque chose. Et je pense que je pense que c'est important en gros, parce que on a de la chance que les gens nous écoutent. Il y a des gens qui nous connaissent pas. Ils nous donnent une heure de leur temps. Si c'est, voilà, on peut, oui, c'est bien, on peut faire le rigolo juste, mais pour moi, il faut leur proposer encore autre chose.
Ouais, c'est quelque chose en plus à la
sortie. Être drôle, c'est déjà dans le contrat de sûr et certain. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que tu apportes en plus?
Qu'est-ce que tu peux donner au-delà, voilà. Bah, écoute, c'était un plaisir. En tout cas, aujourd'hui, de t'accueillir, comment on peut te retrouver comment on peut voir ton spectacle déjà, et comment on peut te retrouver où, sur quels réseaux sociaux?
Écoute, je suis sur Instagram, Facebook et puis TikTok sous le nom de Quentin Friburger, Quentin comme Tarantino et Friburger, Friburger, comme burger à la fin, voilà.
Et on tape donc Quentin Friburger sur Google pour avoir les dates de ton spectacle La Cage. Merci à toi. Je voulais que tu nous laisses sur une musique ou en tout cas sur un son que tu as choisi. Tu as choisi quoi pour nous dire au revoir?
Là en ce moment, le matin, j'écoute une vieille musique de Jams, justement qui m'a mis les frissons. Je pense qu'on manque un peu aussi dans le rap actuel de trip. On parlait tout à l'heure dans le stand-up qu'avant à l'époque ils mettaient leur trip d'abord et ensuite il y avait la blague. Ben là je pense que c'est pareil dans le rap, on a un peu perdu ça, donc là il y a une musique qui met les frissons en ce moment, c'est Ma France à moi de Jams.
Ok, d'accord. Ma France à moi de Jams. Ben on va se laisser là-dessus. Merci en tout cas Quentin Friburger d'être venu, et bonne continuation pour ton spectacle, pour ton voyage à New York et pour toutes les aventures stand-up.
Ben, merci,
que tu
vois. C'était très très cool.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Ciao, ciao.
Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes, parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure, héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner, elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS. Elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe, et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle. Vie à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent, elle. C'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Gérard. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.